Les informations innocent en Olinga.
Les conseils de sécurité de l'ONU en séjour en RDC entament ce lundi son deuxième jour d'audience avec les acteurs sociaux et politiques engagés dans les processus électoraux. Dans ce journal, nous allons vous proposer les réactions d'un certain nombre de personnalités qui ont été reçues hier. Les démobilisés s'impliquent dans les travaux d'assainissement de la ville, c'est à Bukavu, au sud Kivu. Ils sont soutenus dans cette action par la CONADER. À l'Équateur, du côté de Lissala, les jeunes fatigués d'aller loin pour les marchés ont créé un nouveau marché à Bosobété. Mais les autorités civiles sont déjà présentes dans ces marchés pour imposer des taxes. Bonjour à tous. Le Conseil de sécurité de l'ONU en séjour depuis samedi soir à Kinshasa va continuer les audiences et les contacts ce lundi. Hier, plusieurs acteurs sociaux ont été reçus. Parmi eux, les députés Christophe Lutundula-Pala, les représentants des partis politiques, l'abbé Apollinaire Malumalu de la CI, la Commission électorale indépendante. Je vous propose d'écouter le président de la CI au sortir de cette audience. Il dit avoir reçu le soutien total du Conseil de sécurité, abbé Apollinaire Malumalu, au micro de René Capita.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a indiqué clairement qu'il soutient le calendrier électoral tel qu'établi par la Commission électorale indépendante, qu'il donnera tout ce qui est à son possible pour que cette date soit tenue, qu'il faut travailler pour que la communication, la sensibilisation électorale puisse s'intensifier, mais aussi que les domaines sécuritaires doivent être objet de préoccupation pour permettre que cela se passe dans un climat apaisé. Ils ont insisté aussi sur la gestion du contentieux électoral qui doit se faire de manière la plus transparente possible, mais aussi sur l'observation nationale et internationale des élections. Et sur l'observation nationale, ils ont émis le souhait et nous leur avons dit qu'il faudrait un soutien aussi à ce niveau, que tous les bureaux de vote aient des observateurs congolais, de manière à ce que lorsqu'on fait le dépouillement, il n'y ait plus de doute sur la vérité des urnes.
Une autre personnalité reçue hier par la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est Modeste Mutinga, président de la Haute Autorité des médias. Il a demandé aux membres du Conseil de sécurité de faire comprendre aux membres de l'espace présidentiel de s'engager à la pacification de la campagne électorale. Modeste Mutinga au micro de René Capita.
Nous venons de le dire à la délégation du Conseil de sécurité avec beaucoup d'insistance que s'il n'intervenait pas avec efficacité et rapidité auprès des membres de l'espace présidentiel qui sont détenteurs de médias privés, commerciaux et qui ont démarré très tôt la campagne électorale et qui se sont versés dans les campagnes d'intolérance et d'incitation à la haine. La Haute Autorité des médias était pessimiste quant à l'issue de la campagne électorale. Nous avons insisté que le Conseil de sécurité intervienne efficacement auprès de candidats membres de l'espace présidentiel pour que cela cesse et immédiatement.
Les églises doivent donner un message de paix pour amener le peuple à la tolérance et à la paix. C'est l'essentiel de l'exhortation des membres du Conseil de sécurité aux représentants des confessions religieuses. Je vous propose de suivre Monseigneur Laurent Mosengo, l'archevêque de Kisangani et président de la Conférence des évêques du Congo.
De cette rencontre, il résulte qu'on doit insister sur la nécessité des élections et que donc il faut tout faire pour qu'on aille aux élections et éviter que quelque chose puisse arriver qui pourrait perturber les élections. Quand bien même, il y aurait lieu d'avoir un dialogue permanent pour que cela puisse avoir lieu. Ensuite, il a été clairement dit que, du côté des Nations Unies, ils souhaitent que les églises donnent un message de paix, un message qui puisse aider les personnes à s'entendre, à les inciter à la tolérance et à la paix, et puis que finalement, chacun arrive à accepter les résultats de ce qui sortira des urnes. Et je crois que nous allons nous réunir pour essayer de tirer les conséquences de notre entretien avec eux. Et cela aura lieu dans les jours à venir.
Les partis politiques, comme on le sait, n'ont pas eu un même langage à l'issue de leur rencontre avec la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Certains partis politiques ont reconnu le soutien du Conseil de sécurité de la communauté internationale au processus électoral ainsi que la nécessité de la tenue de ces élections au 30 juillet prochain. D'autres, par contre, estiment qu'il faut des concertations avant la tenue des élections pour la transparence de ces dernières. Les agences humanitaires œuvrant dans les districts de Ituri décident de suspendre leur assistance aux déplacés de Bukiringi, localité située à plus de 120 km au sud de Bunia. Les coûts sur les transports des vivres, les difficultés pour atteindre la localité justifient cette décision d'ensemble prise le week-end. À cet effet, les agences humanitaires demandent aux déplacés présents à Bukiringi de regagner leur localité, aujourd'hui sous contrôle des FARDC et des militaires de la MONUC. Bounia, correspondance des collègues du Mamosompo.
La semaine dernière, la MONUC a recouru à deux hélicoptères gros porteurs pour acheminer des vivres à plus de 6800 personnes composées de déplacés et des résidents de Bukiringi. Deux rotations ont fallu pour cette opération d'urgence. Pour les organes onusiennes PAM, OCHA et les ACR, aussi bien que MEDER et l'ONG italienne CESVI, les coûts supportés et l'absence de route sont cités parmi les contraintes logistiques pour la non-poursuite des opérations sur Bukiringi. D'après Irène Schmid du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les déplacés doivent maintenant songer au retour dans leur milieu d'origine.
On a pu mobiliser, grâce aux efforts de beaucoup de personnes, un hélicoptère plus grand au monde pour acheminer ces vivres à Bukiringi. Il faudrait bien qu'ils comprennent que cette assistance massive, c'est une action unique. C'est vraiment très difficile de mobiliser des hélicoptères de ce genre.
La plupart des déplacés assistés proviennent de cinq localités du groupement Walendo-Bindi, aujourd'hui sous contrôle des FARDC et des soldats de la MONUC. À noter qu'avant d'être servis, ces personnes sont restées pendant plusieurs semaines sans assistance alimentaire ni médicale après les dernières opérations conjointes FARDC-MONUC contre les miliciens du mouvement révolutionnaire congolais. Bounia, Colin Djumamusompo, Radio Okapi.
Les démobilisés du Sud Kivu s'impliquent dans la protection de l'environnement. La semaine passée, plusieurs démobilisés soutenus par la CONADER, la Commission nationale de désarmement et réinsertion, se sont lancés dans l'entretien des routes de Bukavu, ainsi que dans l'assainissement et l'entretien d'une pépinière en ville. Une façon pour eux de se réintégrer dans la société. Les explications, Jean-Baptiste Ntonga.
C'est un programme de la CONADER Sud Kivu qui a débuté avec la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin dernier. Il s'agit d'impliquer les démobilisés dans la protection de l'environnement, comme le souligne le chargé de la sensibilisation à la CONADER Sud Kivu, Maître Emmanuel Tshishugi.
On a prévu les curages, les ramassages des immondices et des déchets. Nous avons impliqué les démobilisés dans le remplissage des sacs en prélude de la plantation des arbres. Ces démobilisés aussi sont employés à sarcler, mettre la propreté dans les endroits où on a planté les arbres à la saison passée. La CONADER a disponibilisé un peu de moyens, donné quelque chose par jour par démobilisé qui sont impliqués dans ces travaux-là.
Pour les démobilisés qui n'ont pas encore de projet de réinsertion sociale, cette occupation est bénéfique malgré qu'elle soit bénévole. L'un d'eux s'explique.
Je m'appelle Nkara Birimwira Kiserpan. Nous sommes contents de faire ce travail car ça faisait longtemps que nous faisions des durs travaux, que nous vivions dans des difficultés. Mais maintenant, c'est pour nous l'occasion de redevenir des civils comme tant d'autres. Nous disons vraiment grand merci.
La plupart des démobilisés souhaitent que la CONADER continue à les occuper tant qu'ils n'auront pas réalisé leur projet de réinsertion sociale. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga, Radio Okapi.
Bras de fer entre un groupe d'infirmiers stagiaires de l'hôpital Sendwi et leur employeur, l'université de Lubumbashi, qui gère cet hôpital. Les stagiaires refusent de passer les tests d'embauche. Ils estiment qu'ils doivent être d'office engagés pour y avoir travaillé pendant 8 mois. Pour les recteurs de l'université de Lubumbashi, tous les demandeurs d'emploi doivent passer les tests en vue d'une bonne affectation du personnel à l'hôpital Sendwi. Le point avec Donatien Bourge.
Près de 600 personnes se sont présentées ce dimanche matin à la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi pour passer le test d'embauche. Parmi eux, des infirmiers et autres demandeurs d'emploi ayant presté jusque-là bénévolement à l'hôpital Sendwe en attendant leur engagement. Mais une trentaine d'infirmiers stagiaires a refusé d'y participer. L'un d'eux explique pourquoi.
Lors de la passation du pouvoir entre la Gécamine et l'université, le ministre de la Santé qui avait demandé c'est que tous les infirmiers qui ont travaillé comme bénévoles du temps de la Gécamine devaient être directement engagés. Aujourd'hui, on nous demande de passer le test d'engagement. Après qu'on ait travaillé 8 mois. Donc nous ne passons pas les tests jusqu'à ce qu'ils peuvent nous expliquer clairement ce qui se passe.
Réagissant à cette attitude, le recteur de l'université de Lubumbashi pense que la crainte de ces infirmiers ne se justifie pas. Presque à Umbalufunda.
Nous devons savoir quelles sont les aptitudes de ceux qui sont là. Si vous, vous avez presté à Sendoué pendant 10 mois, ils ne devraient pas, eux, avoir des problèmes. C'est pour éviter que nous puissions continuer à utiliser des incompétents que nous devons les évaluer. S'ils sont parmi ceux qui ont sauvé Sendoué, c'est qu'ils ont les aptitudes et n'ont pas à craindre l'évaluation.
En rappel, c'est depuis une année que le ministère de la Santé a confié la gestion de l'hôpital Sendoué à l'université de Lubumbashi à la suite des difficultés que traverse la Gécamine, ancien gestionnaire. Et depuis, l'hôpital connaît une profonde restructuration administrative. Lubumbashi, Donat Chimbouche, Radio Okapi.
Au Bandundu, les communicateurs en santé de Kikwit se mobilisent pour lutter contre les menaces de polio détectées dernièrement en Angola. Le week-end, ils se sont retrouvés pour discuter sur les cas de la polio découverts à Boma et Sekibanza dans les Bandundu, dans les Bakongo plutôt, mais aussi à Tchikapa au Kasaï occidental. Selon ces communicateurs en santé, il faut une grande surveillance dans leur zone de santé, étant donné qu'elles partagent les mêmes frontières avec l'Angola où le cas de polio a été signalé. Kikwit, Fabien Kambizi.
Suite aux 3 cas de poliomyélite signalés dans la République démocratique du Congo, une mesure de renforcement des vigilances est mise au point à Kikwit par l'OMS, antenne de Kikwit. Avec comme stratégie importante la vaccination des routines et supplémentaires, surveillance épidémiologique, paralysie, flasque et aiguille et le ratissage des enfants à l'âge de 0 à 50 mois autour du foyer signalé. Selon Dr Koukou Berthe, médecin épidémiologique antenne OMS Bandundu, il faut à chaque instant informer la population que la polio est là. Les communicateurs pour la santé demandent à la population de signaler vite au centre de santé proche la situation où le cas d'un enfant qui rampait, marchait et brusquement ne le fait plus. Et aussi l'implication des médias dans cette affaire pour la sensibilisation, car la communication joue un rôle primordial dans la santé. Signalons que les zones de santé de Bandundu au sud et à l'ouest partagent même vie avec les frontières de l'Angola. Kikwit, Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Province de l'Équateur, les jeunes de Bosobété, localité située à 5 km de Lissala, se prennent en charge. Fatigués de courir chaque jour la distance qui sépare leur village de la cité de Lissala pour s'approvisionner en produits divers, ils viennent, ces jeunes donc, de se construire un marché. Commerçants et paysans, ils vont s'y écouler leurs produits. Aucun droit n'est perçu par ces jeunes gens. Mais déjà, les services de l'État ont affecté leurs agents pour percevoir des taxes auprès des vendeurs. Justine Ntobo, reportage.
Le marché Gao est ouvrable tous les jours de 3h du matin à 9h. Il s'organise une intense activité commerciale à cet endroit. Près de 5000 personnes fréquentent déjà ce marché dont les travaux se poursuivent. Ce sont surtout les paysans qui viennent des localités environnantes. Ils parcourent parfois 30 à 40 km à pied avec des marchandises. Les commerçants de Lissala y vont également. Tout est vendu dans ces marchés. Huile de palme, cossette de manioc, riz, friperie et bien d'autres produits. Les jeunes gens qui construisent ce marché ne bénéficient d'aucun salaire ni prime. Ils font le désherbage, construisent des abris et même des étalages qui sont mis gratuitement à la disposition des vendeurs. Selon le chef de groupement des Kalagwa, l'initiateur de ce projet, ils n'ont reçu aucun financement pour l'exécution de ces travaux. Grâce aux moyens de bord et à la volonté de la population de sa juridiction de développer son milieu, que ces travaux sont aujourd'hui réalisés. Notons qu'une somme de 50 francs congolais est collectée chaque jour auprès des marchands par l'administration du territoire de Lissala. Justine Ntobo, Lissala, Radio Okapi.
En page internationale, tout d'abord en Somalie, où privés de la Coupe du Monde, les habitants de Mogadiscio prévoyaient de manifester hier dimanche dans la capitale somalienne pour protester contre la volonté de la milice islamiste qui contrôle la ville depuis peu, volonté de couper les courants afin d'empêcher les gens de regarder les matchs. Des miliciens ont tiré en l'air pour disperser les tifosi du ballon rond en coupant l'électricité au cinéma des Fortunes qui avait mis la diffusion des matchs à leur programme. Il faut dire qu'en vertu d'une interprétation stricte de l'islam, les cinémas et la télévision sont immoraux, surtout s'ils propagent les valeurs occidentales. L'organisation Al-Qaïda en Irak a juré hier dimanche de lancer des attaques d'envergure pour embraler l'ennemi après la mort de son émir suprême, le Jordanien Abu Musab al-Zakari, tué mercredi lors d'un raid de l'aviation américaine près de Bakouba. Dans un communiqué mis en ligne sur Internet, le groupe précise que son état-major s'est réuni après la mort de son chef
pour parler stratégie et réaffirmer sa fidélité à Osama Ben Laden, chef suprême du réseau Al-Qaïda. Voilà, ça n'est ainsi fini avec cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal sur notre site internet www.radiocapi.net, mais aussi en ondes courtes sur 11 690 kHz de 5h à 7h et de 17h à 19h heure de Kinshasa. Bonne suite des programmes sur Radio Capi.